Trouver le psaume 27, permettez-moi de vous remercier pour le fait de recevoir ce magazine et attirer votre attention sur les options de séries de cours que vous pourriez suivre et séminaires l'année académique prochaine qui se trouve là-dedans. Votre invitation aux manifestations du centenaire de l'Institut, votre invitation au barbecue aussi qui se trouve à la page 34. Et si vous avez la possibilité de prier pour l'Institut, pour le moment, nous n'avons pas encore de nouveaux étudiants belges prévus à temps plein. Ce serait super s'il y en avait, et même un bon groupe de nouveaux étudiants belges à temps plein prévus pour la rentrée de septembre. Il y en a d'autres, mais pas de belges pour le moment. Psaume 27. De David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins. Et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel. Fortifie-moi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, combien nous te remercions pour ta parole, qui est plus précieuse pour nous que l'or, et plus douce à notre palais que le miel. Nous te demandons de nous fortifier par l'Esprit dans notre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans notre cœur par la foi. Donne-nous de comprendre ce qu'est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour du Christ. Donne-nous d'être équipés pour les luttes de la vie chrétienne qui se présenteront à nous durant les mois à venir. Donne-nous de serrer ta parole dans notre cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est ce que nous te demandons pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Les circonstances de David dans ce psaume sont difficiles. Elle en est de même de bien des croyants du 21e siècle. Si David est poursuivi dans le psaume, il en est de même de bien des frères et sœurs de par le monde. Ces dernières années, chassés de leur foyer, il n'y a qu'à penser à l'Irak ou à la Syrie. Dans le verset 10 de notre psaume, David évoque l'abandon, le fait d'être abandonné par son père et sa mère. Les personnes musulmanes qui se convertissent au Christ aujourd'hui doivent souvent faire face à un tel rejet. Le psaume parle de faux témoins. Même en Occident, les propos de nous croyants sont régulièrement déformés. Si nous sommes chrétiens, des personnes de notre entourage, de notre famille, de notre voisinage risquent de ne pas nous apprécier, car nous refusons de suivre la société en matière de relations sexuelles hors mariage, d'homosexualité, de travail au noir. Et puis il y a la lutte contre Satan, qui rôde comme un lion rugissant. Ensuite, nous sommes engagés dans une guerre contre le péché. Les désirs charnels font la guerre à l'âme. Mais voici une bonne nouvelle. Nous pouvons mener le combat de la vie chrétienne avec assurance, rempli d'une certaine confiance, doté même d'un certain tonus. Et pour cela, il suffit de saisir en quoi consistait le secret, en quelque sorte, de David dans ce psaume 27. Il se trouve dans le verset 4. Et là, dans ce verset 4 du psaume 27, David demande une chose. C'est notre premier point de ce matin, l'unique désir de David. L'unique désir de David. Ce n'est pas la seule demande que David formule durant sa vie tout entière, mais il s'agit de sa priorité suprême lorsqu'il est face aux ennemis. Quelle est alors cette chose capitale? Verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. On sait ce que ça donne de n'avoir qu'une chose en tête. Ça peut être l'attaquant qui n'a qu'en tête le désir de marquer ce but. Mais c'est quoi pour David? Verset 4. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Il voudrait habiter tous les jours de sa vie dans le temple. Il faudrait réfléchir à cela. Je ne suis pas sûr qu'il souhaite habiter littéralement dans le temple. Il ne provient pas de la tribu de Lévi. Il est peu probable qu'il soit en train de demander à Dieu de pouvoir changer de tribu en vue de pouvoir s'acquitter des tâches liées au tabernacle. Rappelons-nous qu'il n'y a pas encore de son vivant de temple fixe en tant que tel. Les termes « temple » et « maison » sont bien employés pour désigner le tabernacle, et c'est cette tente mobile que David connaît. Or, David ne deviendra jamais le grand prêtre ayant accès au lieu très saint une fois par an, et en tout cas, une fois par an n'est pas ce qu'il demande. Vous voyez verset 4. Il veut habiter toute sa vie dans la maison de l'Éternel. Et l'idée de passer le reste de ses jours au sein du tabernacle en soi ne semble pas à la hauteur de la demande. Mais rappelons-nous qu'à son époque, le tabernacle, c'est là où Dieu résidait particulièrement. David peut donc employer le langage du tabernacle pour évoquer la présence de Dieu. Ailleurs, le psalmiste peut languir après les parvis de l'Éternel, ce qui correspond à languir après le Dieu vivant. David n'est-il pas en train de demander la proximité avec Dieu dans ce verset? Une proximité perpétuelle. Il voudrait être constamment auprès de Dieu, connaître cette intimité avec le Dieu vivant. C'est là son unique souhait. Chercher l'intimité avec Dieu, qu'est-ce que cela donne? Cela se traduit comment? Vous voyez la suite du verset? D'abord, contempler la magnificence de l'Éternel. David voudrait contempler, méditer, comprendre, apprécier, se délecté de la magnificence de Dieu, de ses attributs merveilleux. Les questions de piété chez lui, de consécration, d'adoration. Pensez au jeune homme qui se délecte de la compagnie de sa fiancée. sauf pour le fait que chez la fiancée, il y a des défauts. Chez Dieu, la beauté est toujours époustouflante. Je pense à mon épouse Myriam qui a fait l'effort l'été passé de se lever tôt pour aller contempler le lever du soleil sur une plage magnifique. Sauf pour le fait qu'elle est arrivée un peu en retard. Et dans le meilleur des cas, ça ne dure pas très longtemps. Mais Dieu est là en permanence. Puis la seconde partie de la recherche de l'intimité avec Dieu, il y a un certain flottement dans les traductions, dans ce que beaucoup d'entre nous avons sous les yeux là à la fin du verset 4, c'est « admirer son temple ». D'autres vont avoir quelque chose comme « guetter sa réponse dans son temple ». Il y a de bonnes raisons d'aller dans ce type de sens. S'enquérir de lui, m'enquérir de lui dans son temple. Le verset 11 va dans ce sens. « Éternel, enseigne-moi ta voie. » Me semble que David veut se soumettre à la volonté de Dieu. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, contempler la magnificence de l'Éternel et m'enquérir de lui dans son temple. Voilà donc en quoi consiste le secret de David, une relation intime avec Dieu. Voici le moyen par lequel il peut mener le combat avec assurance. Face aux ennemis, il est rempli donc de confiance quant à sa protection, quant à sa délivrance, verset 5, « Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. » Il me semble que David s'appuie sur des promesses qu'il a reçues. Dieu a promis d'établir sa royauté, ce qui entraîne la délivrance face aux ennemis. Il s'agit dans son cas d'une délivrance physique. David médite le caractère de celui qui a promis de le protéger. Il poursuit résolument cette intimité avec Dieu en contemplant sa magnificence et en s'enquérant de lui. Et le bilan, c'est qu'il est doté d'un certain tonus. Et ce qui vaut pour David peut valoir pour nous également, mais sous forme transposée, pour tenir compte du fait que nous ne sommes pas David. Il y a des similitudes entre ces luttes et les nôtres, entre ces circonstances et ces nôtres. Mais l'ancienne alliance qui régissait sa relation avec Dieu n'est pas la nouvelle alliance qui régit notre relation avec Dieu. À coup sûr, il nous faut nous approprier ce verset 4 face à nos luttes. Mais si nous voulons nous l'approprier de façon juste, il faut passer par celui dont David est l'ombre. Celui sur lequel David anticipe. Celui qui est plus grand que David. Notre deuxième titre ce matin, l'unique désir du Christ. L'unique désir du Christ. Que l'on ne s'y méprenne pas. Les souffrances de David ne correspondent qu'à une ombre des souffrances du Christ qui sont plus profondes. Est-ce que nous pouvons donc nous figurer Jésus au moment où sa mort approche? Entouré d'ennemis, et de personnes qui se révéleront de faux témoins, trahis par Judas, sur le point d'être reniés par Pierre, cracheront sur lui, se moqueront de lui. Il sera humilié, torturé. Nous nous le figurons dans le jardin de Gethsémané, saisi d'effroi et d'angoisse, profondément troublé par la perspective de boire la coupe de la colère de son Père. Figurons-nous Jésus en train de prononcer les paroles du psaume 27, verset 4, dans les grandes lignes, en tout cas. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, contempler la magnificence de l'Éternel et m'enquérir de lui dans son temple. Voici Jésus, dans le jardin de Gethsémané, il prie afin de rester en communion continue avec son Père. éloigne de moi cette coupe. » Pensons à cette union et communion entre le Père et le Fils. Le Père connaît le Fils connaît le Père. Le Père est dans le Fils est dans le Père. Le Père aime le Fils aime le Père. Le Père glorifie le Fils glorifie le Père. Le Père et le Fils sont un. Lisons maintenant le verset 9 de notre psaume. Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Voici l'unique désir de Jésus de continuer à jouir de cette relation intime avec son Père, cette communion. Voici Jésus qui brûle d'envie d'être protégé des ennemis qui l'entourent, qui savoure la délivrance, qui chérit la disposition favorable du Père à son égard. Jésus-Christ a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, contempler la magnificence de l'Éternel et manquer de lui dans son temple. Voici Jésus qui poursuit résolument cette intimité avec son Père en contemplant sa magnificence et en s'enquérant de lui. Et pourtant, cet unique désir qu'avait le Christ, il a dû y renoncer. C'est précisément cela dont il ne pouvait pas jouir, qu'il a choisi de laisser de côté pour vous. Pour moi. Nous nous figurons donc Jésus en train de chercher la face de son Père, mais aussi chercher la volonté de son Père. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Maintenant mon âme est troublée, que dirais-je? Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et en effet, Jésus s'est révélé prêt à supporter la croix, à boire la coupe de la colère de son Père, à sacrifier l'intimité avec son Père. Son unique désir, c'était de rester en communion continue avec son Père, libéré des ennemis qui l'entouraient. Et il aurait pu invoquer son Père, qui aurait pu lui donner à l'instant plus de 12 légions d'anges. Mais Jésus a dû donner sa vie, a dû se priver de son désir, a dû être maudit par son Père. Mon Dieu, pourquoi as-tu abandonné? Quel tourment inimaginable. Jésus brisé par des souffrances qui sont dans une autre catégorie par rapport à celle de son ancêtre David. Mais il savait que par-delà la mort, la joie l'attendait. Il ressusciterait d'entre les morts, monterait aux cieux, s'assiérait à la droite de son Père dans la gloire. Et du fait de passer par la croix, un jour, ses ennemis deviendront son marchepied. Et son unique désir, connaître sa réalisation dans toute sa plénitude et dans toute sa profondeur. Verset 10. Quand mon Père et ma Mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Effectivement, au final, le Père l'a reçu dans la gloire, mais la route conduisant à ce destin était celle de la souffrance, de la croix, de la malédiction. Et c'est justement parce que Jésus a été prêt à passer par la croix qu'un jour, notre unique désir se réalisera également. Notre troisième et dernier titre, l'unique désir du croyant. L'unique désir du croyant. Quel est notre unique désir? Quelle est notre aspiration la plus profonde que notre cœur régénéré engendre en nous? L'Esprit de Dieu n'a-t-il pas implanté en nous cette envie d'être le plus proche possible de Dieu? de celui auquel nous nous adressons ainsi par l'Esprit. Abba, Père, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, contempler la magnificence de l'Éternel et m'enquérir de lui dans son temple. Concrètement, qu'est-ce que cela pourrait donner pour nous de poursuivre résolument cette intimité avec Dieu? Eh bien, dans la prière, nous lui demanderons et redemanderons et redemanderons cette unique chose que nous désirons suprêmement. Cela va vouloir dire ces deux éléments que nous avons vus dans notre verset. Nous contemplerons Dieu et nous nous enquérons de lui. Nous chercherons la face de Dieu et nous rechercherons sa volonté. Nous nous délecterons de lui et nous nous soumettrons à lui. Et le seul moyen par lequel cela peut avoir lieu, c'est par les Écritures, par notre soumission à la parole de Dieu. Mais concrètement, qu'est-ce que cela pourrait donner de contempler la magnificence de Dieu? Eh bien, nous pourrions prendre le temps de nous focaliser sur tel ou tel attribut de Dieu, sa sainteté, sa souveraineté, sa sagesse, sa bonté, sa bienveillance, son amour, sa grâce. On a fait ça déjà ce matin. Ça pourrait être fort de ce que nous entendons le dimanche matin. Nous sommes là, le dimanche, nous entendons une prédication apportée par notre pasteur. Nous sommes frappés à nouveau par la grâce de Dieu dans l'Évangile. Nous ne comprenons pas pourquoi nous pouvons être l'objet de cette grâce. Nous réfléchissons à cela. Nous savons que ce n'est pas en vertu de quelque mérite que ce soit chez nous. Oui, c'est douloureux de penser à ce que nous sommes en nous-mêmes. Quelles ordures! Si nos pensées les plus dégoûtantes de la semaine passée étaient représentées visuellement et affichées, nous aurions du mal à nous regarder en face, n'est-ce pas? Ou nos actions les plus égoïstes, ou nos propos les plus arrogants. Quelle honte, n'est-ce pas? Mais le problème fondamental n'est pas ce que les uns et les autres pensent, mais ce que Dieu pense. Ça, c'est beaucoup plus terrifiant. Quelle offense à la majesté de Dieu que notre péché. Et pourtant, la grâce. Dieu a choisi de pardonner à quiconque se soumet à son autorité. Et il persiste à nous pardonner malgré nos péchés récurrents. Regardons la croix. Tout est réglé. Oui, Jésus a été prêt à boire la coupe de la colère de son Père face à notre péché. Et oui, nous sommes continuellement au bénéfice d'un amour inconditionnel si notre confiance est placée en lui. Et donc, oui, nous contemplons cette grâce. Et nous pouvons être là à la maison en train de nous appuyer sur d'autres versets bibliques qui viennent à l'esprit ou que nous connaissons dans les Écritures. Ça pourrait être pour la grâce de Dieu de 2 Corinthiens 8, 9, par exemple. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui, de riche qu'il était, s'est fait pauvre afin que nous, par sa pauvreté, devenions riches. Et nous réfléchissons, nous contemplons la grâce de Dieu. Ô profondeur de la richesse et de la sagesse de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Et pourtant, il nous convient de mener des efforts pour sonder, pour comprendre, pour méditer, pour nous délecter de la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Dieu à notre égard. Nous contemplons le caractère merveilleux du Dieu de notre salut. Cela fait partie de notre poursuite de l'intimité avec Dieu. Certes, objectivement, en Christ, nous jouissons d'une union avec notre Père qui ne peut être rompue. Mais nous continuons à exprimer notre unique désir d'être proche de lui parce que nous ne sommes pas encore libres de nos ennemis. Et il ne faudrait pas perdre de vue la seconde partie du désir, à savoir rechercher la volonté de Dieu. Chercher la face de Dieu et rechercher sa volonté vont de pair. Si, en écoutant la parole de Dieu un dimanche matin, nous étions inculpés dans notre conscience par rapport à tel ou tel péché, et si nous réprimions la voix de notre conscience, nous ne serions plus en train de rechercher la volonté de Dieu. Et nous serions en train de cesser aussi de chercher la face de Dieu. C'est ainsi que cela fonctionne. Nous chérissons la relation intime avec Dieu et cela se traduit par lutter contre le péché. Dans le contexte, le verset 4 nous fournit les armes dont nous avons besoin face aux ennemis, y compris l'ennemi qu'est le péché qui subsiste en nous. Et la lutte continue, jour après jour après jour. Mais un jour, nous verrons la face de notre Sauveur. Un jour, le diable et la mort auront été jetés dans les temps de feu et de soufre. Un jour, nous serons entièrement glorifiés, portant l'image de l'homme céleste, notre frère aîné, le Seigneur Jésus. Ou selon le propos du verset 13 de notre psaume, un jour, nous contemplerons la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Et entre-temps, nous continuons à viser cette intimité avec Dieu, à chercher la face de Dieu et à rechercher sa volonté, à nous délecter de lui et à nous soumettre à lui. Nous contemplons sa beauté et nous nous enquérons de lui. Et puis nous sommes équipés pour faire face à nos ennemis avec assurance, remplis de confiance, dotés d'un certain tonus. Mais veillons à nous appuyer sur les promesses que Dieu nous a faites. Il ne nous a pas promis la protection physique dans cette vie. Il a bien promis de ne pas permettre que nous soyons tentés au-delà de nos forces, qu'il donnera le moyen de supporter la tentation, et il nous a promis de nous garder dans la foi jusqu'au bout. Les épreuves peuvent être rudes, mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus notre Seigneur. Un missionnaire en Afrique de l'Est au XIXe siècle était en captivité sous tente dans des conditions épouvantables. Figurons-nous la scène. Une nuit, il est nettement privé de sommeil, il ne dort qu'une heure. C'est à cause du bruit des gardes ivres et de la vermine dans sa tente. Il note à ce moment-là dans son agenda, effondré et abattu, réconforté par la lecture du psaume 27. Peu après, il est mis à mort. Mais ça ne veut pas dire que le fait d'être réconforté par ce psaume était mal placé. Ce qui nous est promis dans la Nouvelle Alliance, c'est que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Comme notre Seigneur, nous passons par la souffrance en route pour la gloire. Et nous sommes fortifiés sur cette route en exprimant résolument à Dieu notre unique désir. Connaître cette intimité en cherchant sa face et en recherchant sa volonté, nous pouvons être assurés que Dieu nous conduira à bon port. Je conclus par une illustration contemporaine de la mise en pratique de ce verset, suivie par deux illustrations tirées de l'histoire de l'Église. Et les trois illustrations concernent juste l'un des ennemis, l'ennemi qu'est le péché. Considérons d'abord la lutte contre les pensées de luxure. Comme l'affirme le grand prédicateur contemporain John Piper, il ne suffit pas de dire non à de telles pensées. Il faut passer à l'attaque. Donc, voici. Selon le Nouveau Testament, les pensées de luxure sont trompeuses et relèvent des désirs que nous avions lorsque nous vivions dans l'ignorance. Comment passer à l'attaque? Certes, on rejette la tromperie, on rejette l'ignorance, mais comment passer à l'attaque? Eh bien, nous remplaçons la tromperie par la vérité glorieuse. Et nous remplaçons l'ignorance par la connaissance de ce qui est beau, par les promesses fiables de Dieu, par ce qui satisfait notre âme. Autrement dit, nous mettons en pratique le verset 4 de notre psaume. Et justement, je connais quelqu'un qui lutte avec la pornographie depuis des années, mais il a fait d'énormes progrès dans cette lutte. Pourquoi? Parce que c'est un modèle en matière de mise en pratique du psaume 27, verset 4. Et il m'a donné la permission de le citer. Le changement clé pour moi ces jours-ci, c'est que mon désir de pécher a diminué et mon désir d'être proche de Jésus a augmenté. Par ailleurs, je m'approprie mieux la grâce de l'Évangile et la joie dans l'Évangile lorsque je tombe. Ce n'est pas que je néglige d'être brisé par le péché, mais que j'ai plus tendance à courir vers notre Père au nom de Jésus pour confesser le péché et pour croire véritablement la bonne nouvelle de l'Évangile et le verdict de Dieu en Christ à mon égard. En fait, je mène le combat simultanément sur plusieurs fronts, non seulement contre les désirs sexuels, mais encore contre l'orgueil, l'amertume, la jalousie, des accès de colère. J'ai dû appliquer à tout cela la contrition, la confession et l'appropriation de la grâce, le remède de la joie en Jésus grâce à l'Évangile. Et les deux illustrations tirées de l'histoire de l'Église, elles sont motivantes. Le grand théologien américain Jonathan Edwards a été grandement utilisé par Dieu lors d'un réveil il y a près de 3 siècles. Et durant ce réveil, son épouse Sarah est passée par une expérience particulièrement marquante qui a duré 2 semaines. À cette époque, elle était trop portée vers ce que les uns et les autres pensaient d'elle. Elle recherchait l'approbation de son mari en particulier. Mais durant ces 2 semaines, elle a été transformée à cet égard. À force, lisons-nous, à force d'être absorbée par Dieu et à force de se soumettre à Dieu, donc exactement comme dans notre verset, à force d'être absorbée par Dieu et à force de se soumettre à Dieu, elle s'est affranchie progressivement de ses préoccupations quant à comment elle était perçue par les autres. Et elle a connu de plus en plus de joie dans le fait d'être acceptée par Dieu. Et puis ce n'est pas un secret que l'Évangile progresse très nettement en Chine ces dernières décennies. Par la providence de Dieu, l'une des chevilles ouvrières de ces progrès de l'Évangile, c'est le missionnaire du 19e siècle, James Hudson Taylor. Et un auteur, Tim Keller, nous fait part de ce qui peut être considéré comme étant le secret de Hudson Taylor. Il veillait à ce qu'il se voit constamment rappeler une prière qui provient d'un cantique. On suppose qu'il prononçait régulièrement cette prière aussi. Cette prière consiste à demander que Jésus soit plus présent pour lui et plus précieux pour lui que tout ce qui se trouve sur terre. La vie chrétienne peut être intimidante. Nous sommes engagés dans un combat contre le monde, la chair et le diable. Mais nous demandons à l'Éternel une chose que nous désirons ardemment. Habiter toute notre vie dans la maison de l'Éternel, contempler la magnificence de l'Éternel et nous enquérir de lui dans son temple. Et cela nous donne l'assurance. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur?